BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle, François Sorel.
Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver sincèrement comme chaque week-end pour votre rendez-vous tech, à la fois sur 01 TV, bien sûr, sur la chaîne, 01 TV sur les box, mais aussi sur YouTube, sur 01net.com, et puis le week-end sur BFM Business, radio, télé, et puis bien sûr le podcast audio de quoi je me mêle. Vous êtes très nombreux à le télécharger et à l'écouter. Avec au menu de quoi je me mêle, en ce week-end, eh bien ça y est, on va pouvoir tout vous dire sur les deux nouveaux produits d'Apple Star. Il s'agit de l'iMac, vous le savez, l'iMac ME 24 pouces, et puis aussi le nouvel iPad Pro. Pierre Fontaine de la rédaction de 01net.com sera là dans une vingtaine de minutes pour nous dire ce qu'il en pense. Il les a testés et visiblement, c'est plutôt une bonne nouvelle, ces deux nouveaux produits. Je vous rappelle aussi que vous avez la possibilité de réagir avec le hashtag DQJMM sur Twitter si vous voulez nous laisser votre petit message. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à grossir le groupe de quoi je me mets sur la page Facebook, vous êtes plusieurs milliers à discuter de la tech sur Facebook, sur la page de quoi je me mail. Merci à vous, bienvenue et c'est parti. Et on commence avec le club de la presse IT. Je suis très heureux de retrouver cette semaine Frédéric Bianchi. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Journaliste à BFM Business, vous savez, spécialisé dans la tech. Et avec Frédéric cette semaine, on va revenir sur les gros titres d'actualité. Commencer par la musique, qui est un sujet qui intéresse évidemment beaucoup les géants de l'Internet américains, mais aussi mondiaux, puisque rappelons que Spotify n'est pas américain. Spotify est européen à l'origine. Qu'est-ce qui s'est passé côté musique? Je crois qu'il y a pas mal d'annonces du côté d'Apple.
Oui, il y a beaucoup d'annonces musique aujourd'hui. On va parler d'Apple, Amazon, on va reparler un petit peu après de Spotify. Donc cette semaine, Apple a annoncé qu'il allait améliorer la qualité de son sur Apple Music et qu'on allait avoir de l'Apple Music HD. Hein. Sauf que ça, c'est pour la technologie. Il y a beaucoup aujourd'hui de services qui proposent HD, Amazon, notamment Qobuz.
Sauf que Tidal aussi, qui est un petit service de streaming qui propose ça depuis le départ.
Et on va voir peut-être que d'ailleurs ces annonces d'Apple vont entraîner une concentration un peu de ce marché-là, parce qu'Apple, plus que la technologie, c'est un prix qu'ils proposent, c'est ils offrent la HD. Hein, on se rappelle de Free qui avait offert la 4G. Ben là, c'est Apple qui offre la HD.
C'est étonnant, parce qu'en général, quand ils améliorent un service, en général, c'est rare quand c'est gratuit.
C'est rare qu'ils fassent cadeau, effectivement, d'un nouveau service. Donc là, ils offrent. Alors évidemment, si Apple arrive avec ça, eh bien, on se dit que tout le marché va devoir suivre. Amazon, par exemple, Amazon proposait de la HD à 15 euros. Eh bien, ils passent leur offre HD à 10 euros, c'est-à-dire le tarif standard des abonnements.
Ils se sont alignés instantanément. Dès qu'il y a eu l'annonce d'Apple, ils ont baissé les prix.
Là, ils sont obligés. On ne peut pas arriver, si Apple, qui a quand même une image un peu qualitative, arrive avec un service à 10 euros, moi, je suis Amazon, je ne peux pas rester à 15 euros fatalement. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on attend déjà Spotify. On rappelle, il y a Deezer aussi. Deezer, ils continuent à développer, à innover. Ils sont à 15 euros, Deezer aussi. Donc
parce qu'ils ont une offre de musique HD aussi.
Ils ont une offre de musique HD, tout à fait.
Ils n'ont pas communiqué pour l'instant, tu as raison.
Non, ils n'ont pas communiqué, mais on imagine que si Apple, avec ses 60 et quelques millions d'abonnés au niveau mondial, passe à 10 euros, Deezer ne pourra pas rester à 15 euros.
Mais est-ce qu'ils ont les épaules assez larges? C'est ça, et les reins assez solides.
C'est ça le problème. C'est finalement un enjeu financier, économique aussi, où on peut estimer qu'il pourrait y avoir une concentration sur ce marché-là et qu'à terme, il restera, moi c'est mon pronostic aujourd'hui, qu'il restera deux ou trois acteurs seulement, enfin trois peut-être, Amazon, Apple et Spotify qui est le leader, qui est la seule grande licorne européenne dont on peut se féliciter. Donc le tarif, a priori tout le monde devrait s'aligner. Après voilà, aujourd'hui sur ces offres de streaming musical, il n'y a plus vraiment de différence. Enfin, on a du mal. Pourquoi on va chez Apple? Pourquoi on va chez Amazon? Pourquoi on va chez Spotify?
Parce qu'ils ont à peu près le même catalogue.
C'est à peu près pareil. Le catalogue, il est le même. Alors il y a quelques services différents. On va voir que Spotify tente d'innover beaucoup avec des concerts, des podcasts. Voilà. Aujourd'hui, on se distingue comme ça en essayant d'avoir quelques offres exclusives. Mais sur le service pur en lui-même, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Hein. Mmh. Même catalogue, tu disais, certainement même prix, même tarif d'ici quelques semaines quand on va avoir, quand Spotify va communiquer, hein, Spotify qui reste le leader mondial malgré tout, quand Spotify va communiquer sur ses offres HD. Bon, voilà, aujourd'hui, et c'est vrai que ça va être très difficile pour les petits acteurs hein, qui vivotaient, qui avaient du mal. Hein. Qobuz en France notamment. Bon, Qobuz, sa spécificité, c'était de proposer une offre HD. Mmh. Là, si aujourd'hui ouais. Apple, ils arrivent avec une offre beaucoup moins chère,
ça devient,
quel
ça
intérêt
devient
aujourd'hui
très, très
d'aller sur Qobuz ou Tidal, comme tu disais, ouais. Ça va être plus difficile pour
alors,
eux.
Alors, petite précision concernant cette offre d'Apple Music, il y a donc ce son HD. Alors, il y a plusieurs sons HD. Hein. Il y a le son, on va dire, qualité CD, mais on peut monter jusqu'à une qualité master, en fait, hein, qui est le top du top, où là, les fichiers sont énormes. Hein, voilà, mais on a vraiment une très très bonne qualité.
C'est là-dessus que Qobuz se positionnait d'ailleurs hein, sur ses masters.
Alors, elle est tellement bonne, la qualité, c'est que vous ne pourrez pas la ressentir, en fait, cette qualité. Il faut à ce moment-là acheter un appareil qui se connecte sur l'iPhone, un DAC, hein, qui va en fait transformer le son pour lui donner cette qualité très très haut de gamme, et puis après un ampli et les enceintes qui vont avec. Deuxième chose, c'est que Apple annonce, et tu as dû sans doute le voir aussi, le Dolby Atmos, c'est-à-dire que vous allez avoir du son haute résolution, HD, mais aussi des milliers de titres qui sont spatialisés de grands artistes, qui ont décidé de mixer dans leur studio en fait un son en Dolby Atmos et Apple communique beaucoup là-dessus parce que les AirPods bien sûr sont compatibles avec ce son Dolby ouais. Atmos. Donc il y a aussi un peu de marketing derrière tout ça. On vous offre de la HD mais on vous offre aussi ce son Dolby Atmos. À voir, on va tester. L'offre arrive le mois prochain je crois, hein,
oui,
c'est ça.
Hein.
Et toujours à 9,99. Voilà pour cette offre. Je vous rappelle qu'on restera dans l'univers Apple dans quelques minutes hein, dans De quoi je me mêle, puisque avec Pierre Fontaine, on testera. Enfin, il a testé pour nous. Voilà, c'est ça, avec la nouvelle puce M1, hein, qui est quand même une petite révolution technologique. On évoque Free. Tiens, tu parlais de Free, justement, qui, c'est vrai, en propose toujours plus pour moins cher. Free qui est en croissance et qui veut continuer malgré tout à muscler ses réseaux. Ils n'ont pas le choix, hein, cela dit. Hein.
Oui, alors ils vont continuer à se développer dans la 5G notamment. Alors Free a eu du mal auprès des investisseurs. Hein. Ils ont eu deux séances très chahutées en bourse. Alors pourtant, ils continuent à se développer, notamment en Italie. Hein. Free Italia, ça a été lancé il y a 3 ans. C'est un véritable succès. C'est près de 8 millions d'abonnés. Donc c'est un gros carton. En France, ils continuent à progresser, mais à un rythme moindre. Ils sont quand même déjà bien installé. Dans le fixe, j'ai noté plus 47 000 abonnés. Ils en ont 6,7 millions. Dans le mobile, ça stagne un peu. On est à 13,3 millions. Mm-hmm. Mais surtout, Free change de modèle économique. Free sont lancés, on s'en rappelle, en tout cas dans le mobile, en étant un opérateur virtuel quasiment. Hein. C'était, ils utilisaient les services
L'itinérance d'Orange, bien
voilà.
sûr. Ouais.
Aujourd'hui,
en
Free,
attendant de construire leur propre réseau. Hein.
Ben
c'était ça
réseau,
le deal. Hein.
Ils le construisent, il est bien construit. Aujourd'hui, ils ont 20 000 points hauts mobiles. Ils vont en avoir 25 000 d'ici 2025. Et c'est ça aujourd'hui qui déplaît un petit peu aux investisseurs. C'est que hier, Free a donné une conférence de presse pour ses résultats et a dit que ben, cette année, ça, les résultats n'allaient pas être terribles parce qu'il faut investir énormément pour avoir un réseau indépendant de meilleure qualité. Pour, voilà. Donc Free va complètement se détacher d'Orange dans les mois et les années à venir et va consacrer beaucoup d'argent. Il faut savoir que Free a consacré 30% de son chiffre d'affaires depuis qu'il est dans le mobile pour investir
bien
dans
sûr.
Son propre réseau.
Cela
voilà.
dit, ils n'ont pas le choix.
Non, ils n'ont pas le choix.
S'ils veulent se séparer d'Orange et avoir leur propre réseau, on va dire mobile, il faut investir. Et évidemment, on le sait, ça coûte des milliards.
Ça coûte
d'autant
très cher
qu'il y a un autre paramètre concernant la 5G, tu as raison, c'est qu'il y a cette pénurie des semi-conducteurs
oui.
qui fait que en fait, tous les équipements 5G, il y en a de moins en moins et ils coûtent de plus en plus cher. Et donc, Free, visiblement, a sécurisé beaucoup d'argent pour avoir la garantie d'être livré en appareil et on va dire en équipement réseau pour pouvoir continuer à faire grossir son réseau 5G. Quoi.
Oui,
c'est
oui,
ça
oui.
qui est intéressant.
Alors, la crise des semi-conducteurs, elle devrait malheureusement encore un peu durer hein, parce qu'il va falloir construire de nouvelles usines. Ça prend du temps, 1 an, 2 ans pour construire une véritable usine de semi-conducteurs. Et c'est vrai que dans les 2-3 ans à venir, les tarifs ne devraient pas baisser, la flambée va certainement s'arrêter, mais c'est dans cette période-là clé pour les opérateurs où il faut s'équiper, où il faut acheter ces antennes relais qui sont de plus en plus coûteuses. Et c'est vrai que ça va coûter beaucoup d'argent à Free et les investisseurs, ça, ils n'aiment pas beaucoup hein, quand les entreprises, elles dépensent beaucoup avec des gains qui ne sont pas assurés encore.
Free Mobile qui estime pouvoir couvrir 80% de la population française, 80% hein, en 5G d'ici la fin de l'année.
Oui, aujourd'hui, ils sont à 50%.
Ils sont à 50%, peut-être un petit peu plus, je crois, mais avec leur fréquence à 700 MHz qui est pour les autres opérateurs, on ne va pas réouvrir le débat,
mais... la vraie 5G.
Voilà, qui n'est pas la vraie 5G, qui ne propose pas, en fait, les vrais débits de la 5G. Hein. Mais c'est vrai que l'avantage, c'est que, en fait, cette fréquence 700 MHz permet de couvrir, en fait, une distance très importante. Et c'est pour ça que, eh bien, Free peut tenir peut-être son défi, hein, de couvrir 80% de la population en 5G d'ici 2021. Free qui a vendu aussi une partie de ses points à eau, hein, pour récupérer du cash.
Oui.
Pour investir dans la 5G.
Ils ont cédé exactement leur participation dans leur filiale infrastructure.
Voilà, c'est tout ça, ça bouge, hein, ça bouge. Autre actu cette semaine, Frédéric, c'est Google.
Oui.
Google avec cette fameuse Google I.O. Vous le savez, c'est ce grand rendez-vous annuel. Hein. Vous savez qu'il y a plusieurs rendez-vous dans l'année, hein, avec les keynotes. Il y a Apple, bien sûr, il y a Microsoft qui fait des keynotes. Il y a Google. Google qui a deux rendez-vous. Un au printemps et un autre qui est, on va dire, au tout début de l'hiver ou à la fin de l'automne, où Google présente ses nouveaux smartphones. Là, c'est la Google I.O., c'est le rendez-vous des développeurs.
C'est le rendez-vous des développeurs logiciels. Alors normalement, il y a une conférence en physique, évidemment, dans le contexte sanitaire actuel. Elle n'a pas eu lieu, mais il y a eu une grande présentation de toutes les nouveautés. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Moi, j'ai envie de retenir le focus mis sur la confidentialité. C'est vrai qu'il y a Apple qui communique beaucoup là-dessus. On sait que iOS, le nouvel iOS demande l'autorisation pour qu'on utilise vos données à des fins publicitaires.
Oui, bon, ça a été une catastrophe
pour
Facebook.
La guerre qui se lance avec Facebook et qui évidemment ne fait que commencer. Bon, Google, leur nerf de la guerre, ça reste quand même la donnée, la pub. Eh bien, pourtant, on sent quand même qu'il y a une attente. Alors, je ne sais pas s'il y a une véritable attente du grand public, mais ça fait partie des préoccupations. Qu'est-ce qu'on fait de mes données ? Qui les exploite ? Comment ? Eh bien, Google veut se donner une bonne image là-dessus.
Une bonne conscience.
Et c'est vrai qu'ils sont un peu plus épargnés que Facebook sur ces sujets-là.
Et malgré tout, c'est leur modèle économique.
Mais c'est leur modèle économique.
C'est ça que le paradoxe. Apple, son modèle économique, on le sait, c'est des services payants.
Apple peut s'en passer.
C'est du hardware, etc., etc.
Apple, eux, ils sont sur du velours, évidemment, parce que ce n'est pas leur business model, la publicité.
C'est pour ça que ça les arrange bien de dire que la vie privée, c'est un sujet qui les concerne. Bah oui, ce n'est pas leur modèle économique.
Non, ils se donnent une bonne image parce qu'ils sont véritablement respectueux, hein, de l'idée, et ça touche pas leur chiffre d'affaires. Google, c'est un peu plus hasardeux, mais ils se lancent quand même, et ils ont dévoilé un petit peu leur politique en matière de confidentialité. Il y a des choses quand même assez intéressantes. Ils ont dévoilé le Privacy Dashboard, qui permet donc de mieux autoriser, hein, on va avoir un mur sur lequel on va voir, voilà, sur nos téléphones Android, voilà ce que telles applications utilisent, quelles données, pourquoi.
Donc plus de transparence, on va dire.
Ils veulent jouer la carte de la transparence. Ils peuvent pas se permettre de dire on n'utilisera pas vos données privées, évidemment, mais voilà comment on ouvre un peu le moteur. Mm-hmm. On ouvre un peu le moteur, on vous explique comment ça marche. Donc ça permettra, ce Privacy Dashboard, de voir un petit peu comment les applis utilisent les données. Google veut simplifier aussi les suppressions d'historique, ça aussi. C'est vrai que quand on veut supprimer son historique de recherche, son historique sur Google Maps, c'est compliqué, il faut un petit peu rentrer
dans les menus. On se doutait, on avait l'impression d'ailleurs que Google faisait tout pour qu'on ne trouve pas les options et pour pas qu'on le fasse.
Voilà, c'est ça. Donc là, ils vont le rendre très simple. Il suffira de cliquer sur sa petite icône de photo, hein, sur sa petite icône de profil pic. Et là, Google vous proposera un menu pour supprimer votre historique de navigation Google, pour supprimer votre historique Google Maps aussi. Hein, ça aussi, Google Maps enregistre vos
déplacements
et les conserve pendant très longtemps.
D'ailleurs, amusez-vous, allez dans l'historique de Google Maps. Si vous êtes un utilisateur de Google Maps, c'est quand même assez effrayant. En fait, Google Maps vous piste. Hein. Ce qui est normal, c'est une appli de GPS. Oui. Mais on oublie, on se rend pas compte. Précision là-dessus, suppression automatique des données tous les 18 mois la part de Google. Ça aussi, mais j'imagine que tu allais le dire. On peut les supprimer quand on veut, mais automatiquement, il y a une purge des données personnelles qui est faite tous les 18 mois.
Oui, ça a été une annonce importante aussi. Sur la sécurité aussi, Google a fait des annonces. Google vous avertira quand votre mot de passe a été corrompu et vous conseillera d'en prendre un autre ou de faire le point un petit peu sur tous vos mots de passe. Donc voilà, c'était des annonces quand même assez importantes de la part de Google. Je pense qu'ils ont mesuré le risque de cette suppression des données et que leur chiffre d'affaires et leur activité économique n'en pâtira pas. Mais voilà, c'est vraiment une préoccupation qui monte. Apple se positionne, Google aussi. Maintenant, on attend un peu Facebook, hein, qui est toujours un peu dans le collimateur, ouais, en tout cas des utilisateurs, et qui utilise évidemment nos données, et qui ne pourra pas, en tout cas, enfin, qui va devoir faire, sans doute, ils vont devoir s'aligner et faire ce travail de transparence, et d'ouvrir le moteur un petit peu de l'algorithme de Facebook, savoir comment ils utilisent nos données personnelles.
Fred, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit peu d'hypocrisie de la part de Google, de Facebook, parce qu'on sait qu'ils sont dans le collimateur plus ou moins des gouvernements de tous les pays? L'Union européenne commence vraiment à s'intéresser à tout ça. Même les Américains, hein, même le gouvernement américain commence à pointer du doigt eh bien, tous ces problèmes de vie privée. Donc finalement, est-ce qu'ils le font parce qu'ils n'ont pas trop le choix ?
Bah, c'est de l'hypocrisie ou c'est du marketing. Voilà, ils veulent se donner une bonne image. On sait qu'aux États-Unis, il y a la problématique qui monte vis-à-vis des GAFA. Est-ce qu'il va y avoir de grands procès, de grandes actions en justice pour démanteler ces groupes? Est-ce que il va
On en parle de plus en plus. Hein.
Oui, ça monte. Alors, ça monte sur Google, sur Facebook, mais beaucoup sur Amazon aussi, évidemment. Apple moins, Apple est un peu plus épargné par ces problématiques-là. Et voilà, ils vont se donner dans les mois qui viennent. On sait qu'il y a une nouvelle administration aux États-Unis, hein, qui n'est pas toujours clémente et tendre avec ces géants du numérique. Et là, voilà, ils vont devoir se donner une bonne image en disant, écoutez, on respecte les données privées, on est respectueux de la concurrence, on n'est pas les géants monstrueux qu'on nous décrit parfois. Et voilà, après voilà, comme tu disais, le moteur économique de Google et Facebook, ça reste la publicité.
Ça reste la publicité.
Ça reste la data. Et ils auront beau faire preuve de toute la transparence du monde, si moi, je ne veux pas qu'ils utilisent mes données, eh ben, je serai obligé qu'ils les utilisent, parce que voilà, ce sont des services gratuits, et donc ils vivent grâce à nos données privées.
Un mot sur la forme de cette keynote. C'était une keynote qui était... alors, je ne sais pas si elle était en direct, mais elle était réalisée dans les conditions du direct. Et ça nous a assez surpris, puisque vous avez pu peut-être la vivre sur 01 TV en direct, hein, puisque vous le savez, 01 TV, c'est aussi la chaîne des keynotes que nous faisons vivre en direct avec des invités spécialistes. Et là, c'est vrai qu'on avait une vraie keynote avec des intervenants qui venaient, qui repartaient. C'était pas, en fait, les keynotes confinement, on va dire, qui étaient déjà toutes, on va dire, prémontées.
Bah, qui étaient enregistrées.
Voilà. Là, on avait l'impression que c'était une vraie keynote qui était faite en direct. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, autre chose pour clore sur ce sujet, c'est cette petite fonction médicale, hein, que Google a présenté. Avec son smartphone, on va pouvoir analyser sa peau, Frédéric.
Oui. Se faire un auto-diagnostic de nos
c'est
boutons,
ça, quand même, hein.
Grains de beauté.
Ouais, ouais.
Alors, il y a eu plein d'annonces, mais c'est vrai que celle-là était assez intéressante, parce que Google a mis le focus sur la santé, comme Apple. Et cette application-là, elle est intelligente. Elle est super intelligente. Google, ils sont partis, ils ont regardé l'historique de recherche des gens qui font de la recherche de santé. Ils se sont aperçus qu'ils avaient des milliards chaque année, des milliards de requêtes sur des problèmes de peau. Des problèmes dermatologiques, j'ai tel bouton, essayer de trouver, est-ce que c'est un Doctissimo ou autre. Ils sont aperçus qu'ils avaient ces milliards de recherches, sauf que décrire avec des mots
une rougeur,
crâne de beauté,
pas facile.
Voilà, c'est pas facile. Ils se sont dit, il faudrait pouvoir le prendre en photo. Et c'est ce qu'ils vont lancer. C'est ce qu'ils ont annoncé cette semaine. C'est ce qu'ils vont lancer en 2021. C'est une application de diagnostic dermatologique. Ouais. Alors évidemment, Google dit ça ne remplacera pas un rendez-vous chez le dermato. Si vous pouvez en prendre un, évidemment, en France, on sait que c'est toujours très difficile d'avoir un rendez-vous
mais
chez le dermato.
Mais pour qu'on comprenne bien, on prend son bouton en photo avec un smartphone Android équipé d'Android 12. Et là, l'intelligence artificielle, toute la big data va analyser en fait cette photo et le petit bouton ou la petite rougeur et nous dire à quoi ça ressemble.
À quoi ça correspond. Voilà, il y aura un niveau de probabilité de diagnostic. Ils vous diront, voilà, il y a des chances que ce soit un psoriasis. Il y a des chances que ce soit un herpès. À côté de ça, il y aura des conseils. Ils ont fait appel à des vrais dermatologues pour vous fournir des conseils, des diagnostics, savoir un petit peu comment traiter, est-ce qu'il faut prendre rendez-vous ou pas, est-ce que ça peut être dangereux ou pas. Voilà. Donc, tu as dit, ils ont utilisé le big data, ils ont présenté une étude qu'ils ont publiée dans une revue scientifique. Leur algorithme va se baser est sur des dizaines et des dizaines de milliers de photos de problèmes dermatologiques qui ont été scannées. Et donc, l'algorithme fera le lien entre la photo, les photos. Il faudra prendre trois photos sous trois angles différents pour être vraiment sûr de bien d'avoir une bonne expertise. Et après, ils vous diront, voilà votre pathologie, maintenant, voilà ce qu'il faut faire.
C'est fou.
Et c'est super intéressant. Oui. Ça ne remplacera pas un rendez-vous chez un dermato, mais voilà, au moins pour se rassurer, hein, si tu as un petit problème, tu dis est-ce que c'est grave ou pas, l'application pourra peut-être vous rassurer.
Voilà, dernière petite chose alors que vous pouvez retrouver hein, là, évidemment sur Internet, mais Google a décidé de passer un accord et un partenariat avec Samsung concernant les montres connectées et travailler de concert avec le constructeur coréen pour mettre à jour le logiciel des montres connectées et arriver à quelque chose peut-être de plus complet et fiable, parce qu'on sait qu'aujourd'hui Apple Trust évidemment l'immense majorité de ce marché des montres connectées, et visiblement Google en association avec Samsung n'aurait pas dit leur dernier mot. Ça va être intéressant aussi de voir comment
voudrait fusionner avec Tizen
l'OS mobile. C'est aussi un constat d'échec hein, concernant la montre connectée hein, pour Google hein, cette annonce. C'est assez intéressant. Dans l'actu aussi, c'est les salons. Vous le savez, ces grands rendez-vous technologiques qui rythment depuis des dizaines d'années un peu l'innovation. Hein. Il y a plusieurs grands rendez-vous comme ça. Il y a le CES de Las Vegas, il y a le Mobile World Congress, il y a l'IFA de Berlin. Hein. Et pour tous les plus fidèles d'entre vous, vous savez qu'on suit attentivement chaque année tous ces sujets. Une news concernant l'IFA 2021, Frédéric.
L'IFA est annulée.
L'IFA 2021 est annulée.
L'IFA 2021, alors en 2020, il avait eu lieu de manière quasi totalement virtuelle. Hein. Alors les professionnels pouvaient y aller, notamment pour négocier les contrats. Mais voilà, le grand public n'y était pas. On n'a pas vu les produits, on n'a pas vu les télés, on n'a pas vu les ordinateurs. Donc 2020, il n'y a quasiment pas eu. 2021, il n'y aura pas du tout.
Hein. C'est dingue, parce qu'on aurait pu se dire, virtuel. On sort un peu de cette pandémie. Enfin, touchons du bois, en théorie, ça devrait aller mieux dans les semaines et les mois qui viennent avec la vaccination. Mais malgré tout, les organisateurs ont décidé de jeter l'éponge pour cette
année. Oui, c'est une annonce qui a surpris beaucoup de monde. Hein. Le site de l'IFA était à jour avec les dates de l'IFA 2021 à partir du 3 septembre prochain, il me semble. Et là, donc, ils ont annoncé ça hier. Hein. Trop d'incertitudes sur le. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, le lieu où a lieu l'IFA, Messe Berlin, est transformé. C'est un centre de vaccination géant, donc voilà, évidemment.
Et voilà, c'est ça. Aussi,
mais ce Berlin aujourd'hui ne pourrait pas accueillir du monde. Alors on est qu'au mois de mai. Hein. D'ici là, on peut considérer que la vaccination en Europe et notamment en Allemagne sera suffisamment avancée pour se passer de ces grands centres de vaccination. Mais malgré tout, les organisateurs disent il y a trop d'incertitudes. On ne sait pas où en sera la vaccination en septembre. On ne sait pas où en seront les variants qui arrivent, les variants indiens, les variants sud-africains. Est-ce que les vaccins seront efficaces ou pas? Dans le doute, hein, on sait que c'est des organisations colossales, très coûteuses, notamment pour les marques, hein, qui doivent se payer un stand. Dans le doute, on préfère annuler, faire ça en virtuel, et on se donne rendez-vous en 2022, dans un monde, enfin, on l'espère, on croise les doigts, sans pandémie,
COVID, ouais.
Et où la tech va repartir. Après, on va voir comment va se positionner le CES. CES, c'est 5 mois plus tard, en janvier.
Gary Shapiro qui a dit « Il y aura un CES à Las Vegas en 2022 ». Voilà. Il avait dit la même chose en 2020. Hein.
Oui, oui. Donc, entre-temps, c'est vrai que la vaccination change beaucoup la donne, c'est quelques mois supplémentaires.
On voit que la situation change aux États-Unis aujourd'hui.
Oui. Le taux de vaccination a dépassé les 50-60%, donc ça avance, c'est vrai. D'ici 2022, ce sera bon. C'est vrai que le positionnement du calendrier de l'IFA est peut-être un peu entre les deux, où il y a trop d'incertitudes, ils ont préféré annuler.
Donc
ça fera deux ans sans le grand salon européen de la tech.
C'est incroyable.
Ça va nous faire bizarre en 2022 quand on va y retourner.
Quand on va y retourner, évidemment, puisque rappelons que ce salon aussi est ouvert au grand public. Hein.
Voilà, c'est ça qui me manque le plus.
Tu sais que le score nutrition des curieux, c'est pas excellent. Il n'est pas terrible. Hein. Là, je crois qu'on est au Z. Juste un mot sur les salons. Malgré tout, le Vivatech, le grand salon français de la tech, est maintenu. Hein, au Palais des Sports, au Palais des Expositions à Paris et Port de Versailles. Et puis pour l'instant, le Mobile World Congress, pour l'instant, hein, à l'heure où on enregistre ce De quoi je me mêle en ce 20 mai, le Mobile World Congress est toujours maintenu est-ce qu'il le saura ? J'ai l'impression quand même que là, c'est assez fragile
ça
aussi.
Ça va être difficile de garder le Mobile World Congress, sachant que l'IFA va être annulé. Mais bon, on va
voir,
peut-être qu'il y aura des protocoles très particuliers.
Fred, pour terminer, une page qui se tourne. Enfin, cela dit, on croyait, toi et moi, qu'elle était tournée depuis un moment. C'est le navigateur Explorer. Hein, ouais. Vous le savez, ce navigateur qui a bercé quand même nos jeunes années de surfeurs sur Internet. Hein. Ouais. Microsoft annonce la fin de ce navigateur.
C'est terminé. En 2022, Explorer, c'est fini. Alors, il y a eu plusieurs annonces, plusieurs arrêts. Il devait s'arrêter déjà cette année.
Mais cela dit, on avait l'impression, toi et moi, que c'était déjà terminé.
Ben hein. Oui. Moi, Explorer, je ne savais pas. Voilà, j'apprends très régulièrement que Microsoft va arrêter Explorer. Bon, très bien. C'est une information que, que j'apprends. J'en tiens compte. Voilà. Non, ce qui est rigolo, je suis allé regarder un petit peu les chiffres d'utilisation, des parts de marché des navigateurs dans le monde. Et c'est vrai qu'Explorer, on a l'impression que ça fait qu'il n'existe plus depuis. Voilà. Ils avaient une part de marché encore de 65%. Ils étaient archi leaders en 2010. Hein, c'est pas il y a une éternité. Hein.
Ouais.
Voilà, il y a une petite dizaine d'années, enfin une grosse dizaine d'années, on est en 2021 maintenant. Explorer, c'était encore l'archi leader du marché. Et c'est vrai que ces années 2010 ont complètement basculé.
À l'époque, il y avait quoi ? Il y avait Firefox.
Il y avait Firefox, il y avait
Internet Explorer,
Chrome et Safari. Hein,
Chrome était tout petit.
Chrome était petit encore. C'est vrai que les années 2010 seront été les années de Chrome, hein, qui est devenu l'archi leader mondial du navigateur. Alors Explorer, c'est devenu un gag même sur Internet. Hein. On sait qu'il y a beaucoup de comptes, notamment sur Twitter, qui se moquent de la lenteur d'Internet Explorer. Bon, là, voilà, ça va devenir un objet préhistorique qui n'existera plus à partir de l'année prochaine.
Alors, ce n'est pas pour autant que Microsoft abandonne
Microsoft n'abandonne pas.
Sujet-là. Hein. Ils ont Edge qui a été lancé il y a quelques années.
Ils ont Edge qui veulent pousser.
Mais qui n'est pas un vrai succès, encore une fois.
Non. Microsoft, ils ont un peu... totalement raté, quelque part, le nouvel Internet. Hein, l'Internet des années 2010, l'Internet collaboratif, l'Internet des réseaux sociaux, ce qui ne les a pas empêchés de très bien se développer dans le B2B, dans le cloud. Aujourd'hui, c'est une des sociétés les plus cotées au monde derrière Apple.
Donc, ils ont d'autres activités qui cartonnent.
Mais c'est vrai que l'Internet grand public, ils l'ont raté, et Internet Explorer, on a tous découvert Internet avec Internet Explorer, eh bien, ça symbolise un petit peu cet échec de Microsoft dans les usages grand public d'Internet, dans l'accès à Internet. Hein. On peut en rappeler aussi dans les échecs de Microsoft Windows, les Windows Phone. Hein, voilà. Donc il y a eu quand même beaucoup, beaucoup d'échecs. Donc Explorer va s'arrêter. Bah, c'est un peu la fin d'une époque, écoutez, même si cette époque, elle était finie depuis quelques temps. Ils ont une part de marché aujourd'hui mondiale de 1,5%, enfin moins de 2%, quasiment inexistant. Et voilà, donc on va voir si avec Edge, ils arrivent à pousser et à devenir importants. Moi, personnellement, j'y crois pas. Ça va être difficile.
Et moi, mon premier navigateur, c'était Netscape.
Encore avant.
Les gros ordinateurs, tout ça, on appuyait, on attendait un quart d'heure avant que la page s'affiche. C'était magique, à l'époque. Merci beaucoup Frédéric Bianchi, merci d'être venu. Vous pouvez retrouver Frédéric évidemment et tous ses articles sur bfmbusiness.com. Vous restez avec nous, la suite de ce De quoi je me mêle dans un instant avec Pierre Fontaine qui prend la place de Frédéric. Et puis je vous rappelle que si vous aimez l'actu tech, j'ai le plaisir de vous retrouver aussi sur BFM Business tous les soirs de 20h à 22h pour Tech & Co, autre rendez-vous dédié à la tech. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir. Hein. Vous allez, c'est disponible en podcast audio comme De quoi je me mêle. Vous pouvez vous abonner pour retrouver le flux RSS et c'est aussi à la télé hein, sur BFM Business, donc à la radio et à la télé. Dites-moi au passage ce que vous en pensez. Vous restez là, les tests donc des nouveaux produits Apple, donc l'iMac 24 pouces plus le nouvel iPad Pro. C'est avec Pierre Fontaine. À tout de suite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV. BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle. François Sorel.
Nous sommes de retour, De quoi je me mêle, toute l'actu tech, vous le savez, le week-end, le dimanche matin sur BFM Business à la radio, à la télé et puis sur 01 TV. On va prendre le temps maintenant pour découvrir deux nouveaux produits que beaucoup d'entre vous attendent. En tout cas, si vous êtes plutôt sensible à la technologie, à l'innovation signée Apple, c'est le nouvel iMac M1 24 pouces et le nouvel iPad Pro. Et pour en parler, nous avons l'expert de 01net, c'est Pierre Fontaine qui est avec nous. Bonjour Pierre.
Bonjour François.
Et bienvenue dans De quoi je me mêle, Pierre Fontaine qui a publié les deux tests Voilà, si vous voulez en savoir plus sur ces deux nouveaux produits, une seule adresse, hein, 01net.com, et vous avez à la fois le test donc de ce nouvel iMac et de l'iPad Pro. On va prendre une vingtaine de minutes, Pierre, pour parler des avantages, des inconvénients, de cette petite révolution technologique quand même malgré tout. Là, elle est palpable. Hein. Alors, elle était déjà arrivée sur certains Mac portables, mais on va dire que eh bien, c'est le premier iMac avec cette nouvelle structure.
Le premier Mac qui est redesigné.
Complètement redesigné, parce que ça faisait des années qu'il ne bougeait pas, en fait, hein, l'iMac.
Oui, si on est méchant, on peut dire que les premiers éléments de design de l'iMac tel qu'on le connaissait jusqu'à présent remontent à 2009 avec l'unibody. Après, c'est la forme arrière un peu en goutte d'eau, tout ça, c'était 2012, donc on va dire quasiment 10 ans, hein, on doit mouiller, on fait une moyenne des deux, sans changement de design marquant. Ouais, ça faisait long, effectivement.
Alors, si vous êtes avec nous à la télé, vous le voyez, hein, c'est vraiment une petite révolution par rapport aux anciens iMac. Alors, toute proportion gardée, hein, ça reste un ordi avec un écran. Mais malgré tout, si on le compare au précédent, on se rend compte que, déjà, la taille, hein, petite révolution, 24 pouces, c'est tout nouveau, hein, chez Apple.
C'est à la fois nouveau et ancien, parce qu'on avait, il y a déjà eu des iMac 24 pouces, mais qui était le grand format à l'époque.
Oui, c'est ça. Qui a été remplacé par le 27 après.
Voilà. Alors là, effectivement, il remplace les iMac 21,5 pouces. Alors, on l'appelle 24 pouces parce que c'est le format boîtier. Alors, si on regarde, l'écran ne fait que 23,5 pouces. Donc, on gagne 2 pouces.
Il a sorti son double décimètre.
C'est ça. J'ai mesuré en tout cas, j'ai passé la nuit dessus. un 24 pouces, effectivement, beaucoup plus fin parce qu'il fait 1,15 cm d'épaisseur. Et c'est une épaisseur constante, hein, vu qu'il est, j'allais dire, parfaitement parallélépipédique. Peut-être que quelqu'un qui a fait avec des relevés au laser me dira que non. Mais voilà, il est effectivement, grosso modo, c'est un peu le design qu'on connaît sur les iPad Pro depuis quelques années, appliqué à l'iMac. Voilà.
Alors, avec plein de révolutions, déjà, cette finesse, cette moindre épaisseur, hein, cache quand même une vraie évolution technologique à l'intérieur. On va en parler dans un instant, mais aussi, si vous le voyez, parce que Pierre nous a fait la gentillesse de d'apporter cet iMac sur le plateau de Quoi Je Me Mail, c'est la couleur. On a un iMac bleu.
Oui. Et ça, alors pour ceux qui suivent les iMac depuis longtemps, ça va rappeler les fameux iMac boules arrondis, qui étaient en plastique à l'époque, qui étaient colorés, légèrement transparents.
Hein,
qui a été une des révolutions du retour d'Apple aux affaires. Grâce à Johnny Ive à l'époque, grâce à Steve Jobs, grâce à un renouveau, une façon de vous
présenter. C'était en quelle année ces Mac bombés comme ça, multicolores?
97, 18, donc 18,
c'était,
oui.
C'était aussi la célébration du retour de Steve Jobs à la tête d'Apple, en fait.
Oui, ça a été alors, un travail conjoint, c'était, on va dire, la naissance du duo Steve Jobs-Jonathan Ive.
C'est dingue, hein,
avec,
quand même.
Avec une volonté de faire un petit peu ce qui avait été fait avec le Macintosh à l'époque, parce que grosso modo le Macintosh c'était un tout en un aussi, hein, et de s'éloigner un petit peu de la tour toute beige, toute moche.
Oui, de révolutionner un peu l'informatique personnelle.
De faire que c'était beaucoup plus facile, il y a une poignée au-dessus pour le transporter, enfin, il y avait plein de petits détails qui à l'époque, si vous avez eu la chance de les voir et de les utiliser,
c'était
bien changé la donne.
Bien sûr. Donc là, des couleurs nouvelles, alors il y a le bleu sur le plateau, il y en a 7. Hein,
ouais, alors enfin sur les deux modèles haut de gamme, il y en a 7. Sur le modèle d'entrée de gamme, il y en a un petit peu moins. Mais il y a plein de choses en moins sur le modèle d'entrée de gamme à partir qui coûte 1449 €. Et à partir de 1669 €, on a le droit à tout.
À tout.
C'est la totale.
C'est la totale.
Voilà.
Donc, plusieurs couleurs. Il y a de l'orange, il y a du rose, il y a du vert, il y a du bleu.
Rose, bleu.
Il y a une couleur traditionnelle qui est grise.
Oui,
hein,
voilà, argent. Argent, on dit argent. Chez Apple, on dit argent.
On dit argent. C'est tellement important, l'argent, pour eux. Ils appellent ça.
Enfin, voilà. Et donc,
on a du rose aussi, voilà.
Donc, il y a effectivement un bel ensemble de couleurs. Et en fait, d'ailleurs, c'est assez amusant parce que si vous vous souvenez de l'iMac Tournesol, au moment du lancement de l'iMac Tournesol, Steve Jobs avait dit c'est un hub numérique, on le place au cœur du salon, on le place partout, c'est un ordinateur qui a sa place partout. Et avec ces iMac-là, qui sont effectivement très design, plus colorés même derrière que devant, Apple reprend un peu ce discours en disant c'est le tout-en-un qu'on met partout, qui est pour toute la famille, qui peut être aussi bien dans le salon, la chambre du petit-dernier, que dans la cuisine. Et grâce à l'intégration avec l'univers iPadOS, iOS, vous commencez à regarder une recette de cuisine sur votre iPhone. Hop, grâce à Continuity, vous passez sur votre iMac. Et comme ça, vous avez un plus grand écran, c'est plus confortable pour regarder la vidéo, suivre les trucs.
On peut faire depuis des années, hein, d'ailleurs. Hein.
Ce qu'on peut faire depuis des années, c'est vrai. Mais voilà, donc là, cette entre guillemets, cette finesse, cette couleur un peu vive qui apporte un petit peu de joie, un petit peu de, c'est beaucoup moins austère que l'argent habituellement.
Comment on arrive, Pierre, à avoir un produit aussi fin aujourd'hui? Et là, on attaque évidemment toute la révolution technologique qu'a entamée Apple.
Non, en fait, c'est pour ça qu'on le disait tout à l'heure en introduction, cet iMac est le premier Mac qui a été repensé en termes de design grâce et autour de la puce M1 qui est la première puce Apple Silicon conçue pour les Mac. Alors, elle est conçue pour les Mac, on la trouve aussi dans les iPad Pro de dernière génération. Mais donc, c'est effectivement le premier effort hors Apple AX, c'est-à-dire A11, A12, A13, A14,
dans les iPhones
et dans les iPads jusqu'à présent. Ouais. C'est le premier effort pour faire un SoC, c'est-à-dire une puce qui contient à la fois le processeur, le GPU et un réseau neuronal.
C'est
la carte graphique, qui est conçue pour les ordinateurs portables donc et de bureau. Mais il faut bien rappeler que c'est une puce d'entrée de gamme. C'est pour ça que jusqu'à présent, les gammes où on a, entre guillemets, pas entrée haut de gamme, par exemple, le MacBook Air est totalement passé au M1, alors que le MacBook Pro 13 pouces, qui a de l'entrée de gamme et du haut de gamme, seule la partie entrée de gamme est passée au M1. Parce qu'on est, Apple estime, grosso modo, que c'est une puce qui peut remplacer les Core i3 et les Core i5 d'Intel. Mais pour les Core i7 et Core i9, il faudra attendre un M2, peut-être, si c'est son nom, qui sera plus puissant, qui aura plus de cœur, qui gérera plus de mémoire vive. Pour l'instant, on voit arriver ce M1 dans toutes les machines d'entrée, enfin tous les Macs d'entrée de gamme.
Voilà. Mmh. Donc, on va dire que cette révolution, cette technologie, en fait, qu'est-ce qu'elle apporte et qu'est-ce qu'elle enlève aux utilisateurs? Parce que finalement, c'est ça le plus important. Ouais. Alors, on le voit, ça apporte un design plus fin, mais est-ce que ça apporte plus de performance, plus de souplesse aussi?
Alors, la force de cette puce, en fait, c'est que pour l'instant, elle offre un ratio puissance-consommation électrique imbattable, ou en tout cas abattu a priori, et ça a une importance même dans un iMac, parce que une puce qui est puissante en consommant peu va chauffer assez peu en fait, même si on la sollicite beaucoup, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de lui mettre des gros calodieux, qu'on n'a pas besoin de lui mettre des gros ventilateurs, on peut la mettre dans un boîtier fin, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de place pour se refroidir, ce qui fait qu'effectivement on arrive à un boîtier d'iMac beaucoup plus fin. Donc c'est la première chose, c'est de la puissance pour peu de consommation et peu de place pour la refroidir. Le deuxième apport, effectivement, c'est qu'avec Big Sur, Apple a beaucoup travaillé à optimiser la façon dont les applications sont gérées au niveau de l'architecture du processeur. Et on a l'impression que les applications se lancent plus vite. Enfin, c'est même pas une impression, elles se lancent plus vite, elles sont plus réactives.
Tu l'as senti, toi, dans ce test, parce que évidemment, tu travailles sur ce type de machine. L'avant, l'après, c'est quelque chose qui est flagrant
ça fait quelques temps, je vais paraître blasé, mais effectivement les premiers Mac M1, MacBook Pro, MacBook Air et Mac Mini sont sortis en novembre dernier, et j'ai la chance de travailler sur un MacBook Pro M1 depuis, mais effectivement dans les premiers temps on sent cette rapidité, au point d'ailleurs que alors juste pour faire très très rapidement la technique, on avait jusqu'à présent des processeurs Intel d'architecture x86, et ce qui veut dire
qu'on retrouve dans les PC sous Windows, hein.
Voilà, qu'on retrouve dans les PC sous Windows avec qui ont pris place dans les Mac depuis 2005-2006, donc il faut des applications qui sont conçues pour ces processeurs, qui sont compilés pour ces processeurs. Et quand on arrive sur un M1, qui est une puce ARM, donc il y a un autre type d'architecture, on a Cisco d'un côté et RISC de l'autre, les instructions, la façon de fonctionner de l'application et du processeur sont différentes. Donc on est obligé d'émuler, quand l'application n'est pas native, quand elle n'est pas conçue pour le M1, on est obligé de l'émuler. Et normalement, on perd de la vitesse d'exécution. Mmh. Et les M1 ont tellement été optimisés grâce à l'intégration matérielle et logicielle d'Apple qu'on a certaines applications non natives sur les M1 qui se lancent plus vite que sur un iMac Intel.
C'est dingue.
Ce qui est, ouais. Moi, quand j'ai fait le premier test du premier Mac M1, je les ai refait plusieurs fois parce que lui, c'est pas possible. J'avais testé les premiers Mac Intel avec le premier Rosetta, le premier émulateur, où parfois on avait des lenteurs, c'était assez pénible. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'ils aient réussi ça. Et en fait, si. Donc effectivement, il y a parfois des applications qui marchent pas, des applications très spécifiques. Ça aussi,
c'est important. J'achète un iMac aujourd'hui, ouais. Nouvelle génération. Est-ce qu'il faut que je me pose la question de la compatibilité des logiciels que j'utilise au quotidien? Alors, pour l'immense majorité, Word, Chrome... Ouais. Tous ces trucs-là, Teams, machin, tout ça, ça marchera,
voilà.
On est d'accord.
Alors, soit qu'elles soient déjà passées, elles aient été adaptées, oui. Portées pour fonctionner nativement, c'est-à-dire sans bien émulation sur M1, soit qu'elles soient entretenues régulièrement, qu'elles aient évolué dans leur façon d'être développées et codées au fil du temps et que donc l'émulation se passe bien. Et puis, alors après, effectivement, il y a des cas particuliers.
Il y a quelques warnings quand même, malgré
certaines
tout.
Certaines applications... professionnelles, certaines applications un petit peu anciennes, avec ce qu'on appelle le legacy code, c'est-à-dire du code de développement très très vieux, qui peuvent effectivement parfois poser problème. Mais alors là, pour le coup, c'est du cas par cas. Alors, il y a des sites qui ont été mis en place par des développeurs qui listent les applications.
On peut trouver très facilement sur Internet.
On tape dans Google 2-3 mots-clés, M1, logiciel, etc. et on les trouve.
Alors, on est en passe de sortir d'une pandémie qui a été quand même assez dramatique, mais aussi qui a montré les forces et les faiblesses en fait de tous ces géants de l'Internet. Est-ce que cette machine a été pensée pour le télétravail? Est-ce que certaines choses ont été améliorées pour justement entamer peut-être cette nouvelle vie pour certains d'entre nous?
Alors,
je pensais notamment à la caméra, parce que c'est vrai que sur les iMac, pour en avoir un d'ancienne génération, la caméra, c'était...
Non, effectivement...
horrible.
S'il y a un truc positif à retirer de cette pandémie, c'est qu'Apple s'est rendu compte que ses webcams n'étaient pas terribles. Non, c'est la réalité. Donc là, pour juste concentrer sur la webcam, c'est une webcam 1080p, Full HD, et qui tire surtout parti de l'ISP, c'est-à-dire le processeur de traitement de l'image, qui est intégré au M1. Et en fait, ce processeur, il va prendre le signal, c'est-à-dire les images qui sont filmées par la caméra, il va les traiter automatiquement pour les améliorer, pour qu'elles soient, la balance des blancs soit meilleure, pour que les traits de la personne soient plus nets, etc., etc. Et donc, effectivement, il y a un net progrès en lumière, condition de lumière normale, c'est flagrant.
Bon, meilleure définition, donc.
Oui, la définition est meilleure, vu que c'est du 1080p.
On était à 720 sur les précédents iMac, quand même.
C'était un peu un oublié, on va dire. Ouais. Et meilleure définition. Et puis derrière, un meilleur traitement numérique, logiciel, par un traitement logiciel et matériel de l'image qui fait que c'est.
Donc tu fais des visios avec une super qualité.
Voilà, c'est de bien meilleure qualité.
Ça,
alors effectivement, quand on se filme de nuit dans une pièce où le seul éclairage c'est l'écran. La qualité de l'image se dégrade,
oui,
c'est
mais
évident,
bon.
Mais on ne fait pas des vidéos professionnelles.
Apple ne révolutionne pas, mais revient au niveau, voilà, on va dire, des PC.
La qualité est bonne. Par ailleurs, autre argument intéressant quand on fait du télétravail, effectivement, il est compatible Wi-Fi 6, ça a toujours son intérêt. Si vous avez un routeur Wi-Fi 6 et que vous avez
pas
beaucoup
Wi-Fi 6E, attention.
Non,
hein,
pas Wi-Fi 6, Wi-Fi
donc
6.
C'est du Wi-Fi 6.
Pour l'instant, les puces, voilà.
Captation sonore, micro, haut-parleur.
Alors le micro, ils déploient pareil les micros qu'ils ont peu à peu développés, notamment à partir du MacBook Pro 16 pouces, qui sont, il y a trois micros qui prennent mieux le son de manière
claire.
Voilà. Et les haut-parleurs. En fait, les haut-parleurs, il y a un ensemble de 6 haut-parleurs avec la bonne technologie qu'ils avaient développée pour le MacBook Pro 16 pouces, où les haut-parleurs de basse sont en opposition pour supprimer les vibrations. Ce qui fait que, alors, vous n'allez pas sonoriser une boîte de nuit avec, mais si vous voulez mettre.
C'est pas l'objectif. Hein,
voilà, non.
Enfin, si vous êtes obligé de vous acheter ça pour sonoriser votre boîte de nuit,
brancher quelque chose derrière.
Enlever les bruits de caisse.
C'est ça. Mais non, il est possible, en poussant le son, il y a un son qui est, sans être extraordinaire, plutôt de bonne qualité. Et surtout, il n'y a pas ces vibrations parasites qu'on a parfois quand on pousse un peu trop le son sur un appareil.
Les accessoires, importants. Nouveau clavier.
Ouais.
Qu'elle est plus compacte.
Tout à fait. Ça, c'est.
Ouais.
Alors, la compacité, oui, effectivement, les derniers. En fait, alors, là, on a droit maintenant au Magic Keyboard, qui est le remplaçant des claviers papillons, qu'on n'avait pas eu sur les iMac jusqu'à présent. Donc, il y a trois itérations de ce Magic Keyboard. Il y en a une, entre guillemets, donc, toutes sont sans fil, hein, toutes sont Bluetooth. Le premier, c'est un Magic Keyboard, on va dire, un peu tout bête, avec donc une course plutôt agréable, assez compacte et réactive. Quelques nouveautés en termes de boutons. On a par exemple un bouton pour Spotlight, qui est le moteur de recherche de macOS. On a un bouton emoji pour, si on veut mettre des emojis dans ses messages. Et on a un bouton verrouillé. Ça, c'est la première version. La deuxième version devient bien plus intéressante parce que, bien qu'il soit sans fil, vu qu'il est Bluetooth, il y a une touche Touch ID qui est intégrée, alors qui va permettre, comme sur tous les ordinateurs ou les iPhones, il y a Touch ID, de s'identifier pour déverrouiller sa session, ne pas avoir à saisir un mot de passe sur un site web ou quand on veut installer un logiciel.
Pour payer aussi, peut-être.
Pour payer, avec Apple Pay, bien
c'est
sûr.
C'est cool.
Donc ça, c'est un truc intéressant. Mais il y a aussi un truc qui est bien avec ce Touch ID, c'est que quand on l'utilise et qu'il y a plusieurs utilisateurs sur l'ordinateur, on peut basculer d'une session à une autre
simplement
très rapidement
en posant son doigt.
Voilà. Alors, je vais prendre des pincettes parce que moi, quand je l'ai essayé, je me suis créé plusieurs comptes avec plusieurs doigts, évidemment, enfin, pas que des doigts.
Mais parce
moi.
Que tu as plusieurs doigts, ça c'est quand même.
J'en ai
une
sur
force,
moi.
Je pense
en généralement 10.
Une dizaine.
Ouais,
hein, c'est ça.
Parfois plus, parfois moins, parfois deux mains gauches, mais en règle générale, voilà. Donc j'ai fait des essais. Alors parfois ça marchait très bien. J'étais là, paf, j'appuyais et hop, quelqu'un d'autre appuyait, ça passait. Et parfois je me retrouvais sur la fenêtre de choix de session et il fallait que je rechoisisse et que je déverrouille. Mais
bon, donc, petit bug, peut-être.
En tout cas, voilà, c'est vrai que c'est bien quand on veut passer rapidement à l'autre. Et donc, le troisième modèle de clavier, pour ne pas l'oublier, c'est avec un pavé numérique rajouté.
Voilà, parce qu'il y en a qui aiment bien ça. Hein.
Si vous faites beaucoup d'Excel et ce genre de choses, c'est vrai que c'est pratique. Voilà.
Qu'est-ce qui est en option? Parce qu'on sait que chez Apple, tout est en option. Quand on achète un iMac, qu'est-ce qu'on a comme clavier?
Aucun
clavier.
Oui, bien sûr, on a un clavier. sur le modèle entrée de gamme,
le 1449 €,
on a le modèle de base.
Sans le Touch ID.
D'accord. Et quand on achète à partir de 1669 €, on a le clavier sans le pavé numérique, mais avec le Touch ID.
D'accord.
Voilà.
Et le clavier pavé numérique, c'est une option, j'imagine.
Voilà, c'est une plus payante dont le surcoût m'échappe, mais qui est accessible sur tous les modules, hein, sur tous les iMac d'ailleurs. Si on veut avoir l'entrée de gamme et avec le pavé numérique, on peut l'avoir aussi.
Très bien. Les prix, juste pour
1449, 1669, 1899.
Voilà. Grosse différence de puissance entre l'entrée et l'entrée de gamme et le haut de gamme.
L'entrée de gamme a
plus de mémoire vive, j'imagine, plus de stockage.
Oui, alors l'entrée de gamme a un M1 avec 8 cœurs pour le processeur et 7 cœurs pour la puce graphique. Après, c'est 8 cœurs et 8 cœurs. Et ça, la différence se fait sur le stockage.
D'accord.
Et tous sont à 8 gigas.
Est-ce qu'on peut jouer maintenant avec ce type de machine, Pierre?
Alors, oui et non.
Est-ce que, par exemple, il y a Steam?
Oui, bien sûr.
D'accord.
Bien sûr. Ça fait longtemps qu'il y a Steam sur les Mac. Alors, le catalogue.
Mais est-ce qu'il est émulé, Steam, ou est-ce qu'il est en natif sur M1? C'était ça ma question.
Il est émulé aux dernières nouvelles. Je ne crois pas qu'il. J'ai pas checké, mais aux dernières nouvelles, il était émulé. Mais ce n'est pas l'application qui s'en sort le plus vite. Mais effectivement, on peut jouer aux jeux qui sont disponibles pour macOS, bien sûr. Ce qui est à dire un catalogue qui est bien moins important que le catalogue pour Windows.
Parce que tu me parles de tout à l'heure, cette débauche de puissance à la fois, donc la puissance brute et la puissance graphique, on peut se dire que demain, finalement, bon.
Sur les Mac M1, on peut jouer à des jeux un petit peu vieux, par exemple un Tomb Raider, les différents Tomb Raider de Crystal Dynamics, on peut y jouer en Full HD, en mettant tout à fond à plus ou moins 40 images par seconde, donc c'est très fluide.
Ce qui est correct.
Pas de soucis. Après, si on trouve des jeux plus récents et qu'on pousse graphiquement, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Et puis, il y a aussi l'offre Apple Arcade, avec pas mal de jeux, genre Fantasia, le dernier jeu produit.
Alors, c'est plus du casual gaming, là, on va dire.
C'est dans l'esprit Final Fantasy.
Oui.
Avec des graphismes qui sont jolis, sans non plus tomber à la renverse. Donc voilà. Mais effectivement, on en a du casual gaming à des jeux un peu plus sérieux dans Apple Arcade, voilà. Donc l'iMac, on peut jouer, oui, mais c'est pas une machine de gamer.
Voilà. L'iMac, donc, son principal défaut, à ton avis, pour terminer, et après on passe à l'iPad Pro.
Très franchement, au-delà de la question des prix qui sont toujours un petit peu élevés chez Apple, mais bon,
oui,
là,
qui est un peu le défaut, on va dire, inhérent chez les produits
mais
Apple.
C'est effectivement, on achète un produit qui est bien fini, qui va bien vieillir généralement. Il a pas de défaut majeur, à mon sens. Il a tendance à ventiler un petit peu plus que les autres Mac avec une puce M1, mais je crois que c'est 30 et quelques, 35 décibels, donc c'est rien, quoi.
On pourrait imaginer avoir un iMac plus grand. On parle d'un 32 pouces, ça paraît cohérent, ça.
Même modèle en 32. Vu que l'objectif c'est de remplacer le 27 pouces et que là on a gagné des pouces. Oui, bien sûr, j'espère en tout cas que l'iMac plus costaud,
ça sera
plus
un 32 puissant, pouces.
Sera un 30 ou 32 pouces.
Et là, ça va être la claque quand même.
Ça va être super sympa.
32 pouces à 50 cm des yeux, ça risque de faire mal. Enfin, mal dans le bon sens. Parce que, évidemment, la qualité de l'écran, juste un mot là-dessus, c'est équivalent aux précédents écrans des iMac 27, etc.
En termes de fidélité colorimétrique, de luminosité, tout ça, et contraste, on est dans les clous. C'est une bonne.
Sur les écrans des iMac étaient généralement
bons.
Avec une définition 5K,
effectivement, c'est pas une dalle mini LED pour te tendre une perche pour faire une transition.
C'est ça le professionnalisme quand même. Non seulement il a 10 doigts, mais en plus, c'est un vrai journaliste qui sait faire les transitions. iPad Pro donc maintenant.
Exactement.
Voilà, on a 4-5 minutes pour en parler.
Donc l'iPad Pro embarque aussi la puce M1 dont on a dit tout bien qu'on pensait.
Voilà.
Alors effectivement.
C'est la même ?
C'est la même. En fait, c'est ça qui est stupéfiant. C'est la même. Alors, vu qu'elle est dans un facteur de forme, un boîtier beaucoup plus compact, elle aura tendance à un petit peu baisser ses performances si on la sollicite longtemps, mais au quotidien...
Parce que ça marche sur batterie, la plupart du temps, truc-là.
Ça marche sur batterie, et puis le boîtier étant quand même hyper compact et le fait qu'il n'y a pas de ventilateur,
ça peut chauffer plus.
Ça chauffe un peu plus, voilà. Donc là, la nouveauté, effectivement, c'est la puce M1 qui fonctionne, apporte toute la puissance dont on peut rêver sur un iPad Pro.
Grosse différence avec l'iPad Pro de l'année dernière, qui était déjà un monstre de puissance.
Oui, on gagne entre 40 et... alors, ça dépend des tests, mais on va dire, en moyenne, partie CPU, on est à peu près 40-60%, et partie GPU, entre 50 et 80%.
Ouais, donc, c'est pas anodin.
Donc, c'est un bon saut en avant. Et puis, sur la partie intelligence artificielle, c'est-à-dire tous les programmes qui vont utiliser la reconnaissance d'image, etc., il y a aussi un super saut en avant, à peu près du même ordre d'idée. Donc, ça, c'est pour la puce M1 au pas de course. La deuxième nouveauté, effectivement, c'est la dalle liquide Retina XDR. C'est-à-dire que...
Là, on est dans le mini-LED.
Alors, le mini-LED, ce n'est pas une technologie d'affichage, c'est une technologie de rétroéclairage. Il y a toujours une dalle LCD, ce n'est pas de l'OLED. Mais derrière...
Mais en gros, il y a plein de petits points. Il y a beaucoup plus de petits points lumineux.
Voilà, l'éclairage est beaucoup plus fin, réparti en plein de zones contrôlables de manière très, très fine. Ce qui fait qu'on a beaucoup moins d'effet de blooming. C'est, vous voyez, quand on a un fond noir et puis des lettres en blanc et que ça bave un peu. Alors ça arrive encore un peu, mais franchement c'est plutôt bien contrôlé. Donc on a un taux de contraste qui est phénoménal, parce que sur la génération précédente on était autour de 1200 et là on est à 60600.
On voit la différence ou pas ?
Ouais,
ou est-ce que c'est vraiment les graphistes qui vont pouvoir...
Quand on regarde des films, quand on travaille sur... On voit que les noirs sont plus profonds, on voit qu'il y a vraiment quelque chose d'apport en plus. Sachant que sur des contenus classiques, on a une luminosité qui est aux alentours de 600 candélas par mètre carré, donc c'est plutôt lumineux, on peut travailler dehors. Et quand on regarde ou travaille sur des contenus HDR, on peut avoir des pics de luminosité qui montent beaucoup plus. Et ce qui fait que c'est beaucoup plus confortable. Ça, c'est le propre des dalles XDR chez Apple, c'est que ça répond quand même à un cahier des charges un peu professionnel et ça permet justement aux professionnels de l'image d'avoir un cycle de production HDR de bout en bout. Par exemple, on est sur un photoshoot, on fait ses photos ou ses vidéos en HDR de la mort, on peut les regarder sur son iPad, vérifier que tout va bien, et quand on arrive sur son Mac Pro hyper puissant au studio, on a travaillé de bout en bout en HDR, il n'y a pas besoin de dire il faut que je repense mon truc.
On a une cohérence, on aura la même qualité d'image même vision. Alors,
pour le grand public, ça a de l'intérêt si vous aimez regarder des films en HDR, si vous aimez ce genre de choses. Et puis aussi le son Dolby Atmos qui est assez sympa, enfin l'effet Atmos. Après, c'est vrai que c'est surtout utile pour le grand public d'avoir cette analyse, le professionnel, pardon, d'avoir cette analyse d'air.
C'est vrai que pour le grand public, c'est peut-être moins pertinent, d'autant que ça coûte combien, l'iPad Pro ?
Alors, le 11 pouces qui n'a pas l'analyse d'air est à partir de 899 et le 12,9 pouces est à partir de 1289, oui. Je crois. Donc, 1200 et quelques.
C'est-à-dire que
voilà, et ça monte.
On rajoute un chouïa et on se retrouve avec un iMac nouvelle génération.
Sachant que quand on, soyons fous, on veut avoir 2 teraoctets, qui est le maximum, on veut avoir 16 gigas de RAM, qui est le maximum, on franchit allègrement les 2600 €. Et puis, si vous voulez rajouter le Magic Keyboard pour en faire un PC de temps à autre, c'est 399 € de plus. Donc ça commence à... On peut dire, d'une certaine manière, même si iPadOS est encore une limitation par rapport à, en termes d'ergonomie par rapport à macOS, on peut dire que c'est le Mac du futur ou le PC du futur, mais à quel prix ?
Oui, c'est ça. Voilà. Et puis, oui, ça coûte même, dans certaines configurations, plus cher qu'un MacBook Pro, finalement.
Effectivement. Oui, c'est un usage beaucoup plus polyvalent.
Oui, bien sûr.
Avec des limitations encore ergonomiques, mais c'est...
Et professionnel, bien évidemment.
Bien sûr. Après, certains particuliers peuvent se l'acheter parce que c'est un super bon produit. Il y a une très bonne autonomie. L'autonomie en polyvalente passe le cap des 13 heures. C'est-à-dire qu'on peut partir la journée et travailler avec, il n'y a pas de souci.
Alors, bien sûr, voilà, ce n'était qu'un petit apéritif de ces deux produits. Si vous voulez vraiment rentrer dans le détail, aller en profondeur, les tests de Pierre Fontaine vous attendent sur 01net.com. Merci Pierre d'être passé par le plateau de Quoi je me mêle. Toujours très intéressant d'avoir ta vision sur ces deux nouveaux produits. Ce De Quoi je me mêle est terminé. Encore une fois, merci de nous suivre. Rendez-vous donc la semaine prochaine. Et puis d'ici là, non, je dis une bêtise, la semaine prochaine, il n'y aura pas De Quoi je me mêle parce que pour tout vous dire, je m'octroie une petite semaine de vacances. Voilà. Mais on sera là donc pour le premier week-end de juin. Et d'ici là, portez-vous bien. À très vite.
De Quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.